Vous écoutez On lit pour vous.
La belle et triste épopée des Expos de Montréal. Un texte de Nicolas Dupont paru le 14 février 2024 dans le magazine Virage. C'est un printemps doux amer pour les fans de baseball du Québec. Il y a 55 ans, les Expos de Montréal lançaient dans l'enthousiasme la première saison de leur histoire. 35 ans plus tard, ils entamaient dans la douleur une longue marche vers leur dernier retrait. Virage discute de cette fabuleuse épopée avec quatre personnalités qui ont été marquées à jamais par nos amours. 1968, la Ligue nationale souhaite ajouter deux équipes. La première ira à San Diego. Et la deuxième? Montréal est finaliste, tout comme Buffalo, Dallas et Milwaukee. Contre toute attente, c'est la métropole québécoise, alors en plein essor, qui est choisie. C'est la stupéfaction. « J'étais abasourdi. Je n'y croyais pas », raconte Jacques Doucet, voix légendaire des Expos à la radio pendant plus de 33 ans. « Dans mon esprit, c'était impossible, mais j'ai dû me rendre à l'évidence que c'était bien vrai. » Premier joueur québécois à être invité au match des étoiles du baseball majeur en 1966, Claude Frenchy Raymond joue pour les Braves d'Atlanta lorsque le maire Jean Drapeau remporte son pari improbable. Il se souvient avoir réveillé son co-chambreur pour lui annoncer la bonne nouvelle après l'avoir aperçu à la une du journal. « J'étais excité. » Car je savais à quel point le baseball était un sport populaire à Montréal, affirme le lanceur qui a disputé 12 saisons dans les grandes ligues. J'étais content de pouvoir faire découvrir à mes coéquipiers une ville aussi débordante de vitalité. Une demande loufoque. Ainsi naissent les Expos de Montréal, première équipe de baseball majeure à élire domicile à l'extérieur des États-Unis. C'est un nouveau marché à conquérir et une nouvelle culture à développer. Durant la saison morte, Frenchy a été appelé à commenter le repêchage d'expansion pour le compte de Radio-Canada en direct de l'Hôtel Windsor. Le président des Expos, John McHale, ainsi que le directeur général, Jim Fanning, lui font alors une demande assez spéciale. Aider à la vente de billets de saison pour la nouvelle équipe. J'ai trouvé ça un peu loufoque, puisqu'à ce moment-là, j'appartenais aux Braves, souligne Claude Raymond. Ils ont fait la même demande à Ronald Pichet, qui faisait partie des Cubs de Chicago. Nous étions deux joueurs actifs et nous vendions des billets de saison pour une autre équipe. La belle époque. C'est le 14 avril 1969 que les Expos disputent enfin leur première rencontre en sol montréalais. Devant 29 184 spectateurs réunis au Parc Jarry, ils viennent à bout des Cardinals de Saint-Louis au compte de 8-7. Pour Jacques Doucet, les premières années au Parc Jarry sont synonymes de beaucoup de bons souvenirs. C'est d'abord à cet endroit qu'il s'initie comme amateur. C'est aussi dans ce modeste stade de Parc Extension qu'il vit des moments père-fils inoubliables. Assister à un match de baseball avec mon père Marcel, c'était quelque chose de vraiment spécial, surtout dans les dernières années de sa vie, confie-t-il. Lors des matchs de baseball, nos langues se déliaient. On avait soudainement plein de choses à se raconter. Perry Giannias, grand collectionneur d'objets de baseball et fondateur de l'Expo Fest, était gamin à l'époque. Encore aujourd'hui, ses souvenirs du Parc Jarry sont vifs. J'y étais avec mon équipe à Tôme. Je devais avoir 5 ou 6 ans. Il faisait tellement chaud que mes fesses brûlaient sur le banc, mais j'ai rapidement été comblé, se rappelle-t-il. Les noms des joueurs étaient séduisants pour un jeune comme moi. Rusty Staub, Mark Jones, John Bocabella, Coco Laboy. C'étaient des personnalités. Une forteresse de béton. Les Expos de Montréal déménagent au Stade olympique lors de la saison 1977. C'est ici qu'une nouvelle génération de fans tombera en amour. La première fois que j'y ai mis les pieds, j'avais tellement trouvé ça grandiose, se rappelle Mark Griffin, analyste au réseau des sports, RDS, et ancien joueur de champ extérieur dans l'organisation des Expos. De voir en vrai les Gary Carter, Tim Raines, André Dawson, ce fut un coup de foudre total. Et ça m'a fait rêver. C'est par-dessus tout ce que je voulais faire plus tard, jouer pour les Expos. Aujourd'hui âgé de 55 ans, Griffin raconte que son père et lui faisaient la route entre Québec et Montréal une ou deux fois par année pour voir jouer leur préféré. Il avait même trouvé le moyen de dénicher un billet pour le match des Étoiles de 1982, un événement qu'il ne voulait rater pour rien au monde. Au fil des saisons, nos amours font naître et grandir l'espoir chez les adeptes de balle grâce à d'éclatantes victoires. Et le public est au rendez-vous. En 1979, le club attire plus de 2 millions de personnes pour la première fois depuis sa fondation. Au tournant des années 1980, autour d'un million de paires d'oreilles par match écoutaient le réseau radiophonique Télémédia. Dans une certaine mesure, on pourrait aisément comparer les matchs des Expos de Montréal avec les grands rendez-vous comme les Beaux Dimanches ou la Petite Vie. Un lien important se tissait, fait valoir Mark Griffin. Le plus beau sport au monde. Les liens se tissaient aussi dans les estrades. Pour quiconque est tombé amoureux à un moment ou un autre de ce sport, le baseball a quelque chose de rassembleur. Contrairement au hockey, un jeu qui est toujours en mouvement, le baseball comprend des temps morts qui permettent de discuter du match, mais aussi de tout et de rien, de rigoler et de réfléchir. Le baseball, c'est relaxant, estime Jacques Doucet. Tu t'assois, tu jases avec les gens autour de toi que tu ne connais pas. De belles amitiés se développent autour du baseball. Il était facile de trouver son compte lorsqu'on assistait à une partie des Expos, insiste pour sa part Claude Raymond. Premièrement, c'est plus abordable que le hockey. On peut facilement y inviter sa famille ou une bande d'amis. Ensuite, au baseball, tout le monde devient un gérant d'estrade. Personnellement, je trouve que c'est le plus beau sport au monde. Le douloureux départ. L'année 2024 marque le triste 20e anniversaire de la dernière saison des Expos de Montréal avant le transfert de l'équipe vers Washington. Une perte immense selon plusieurs. Il n'y a personne qui va me dire qu'il y a eu des éléments positifs reliés au départ des Expos, martèle Mark Griffin. Il y a 30 villes dans le monde qui peuvent se targuer d'avoir une équipe de baseball majeure. Montréal a perdu ce privilège. À ce jour, j'estime que nous n'en avons pas fait suffisamment pour garder les Expos au Québec. C'est un sentiment que partage Perry Giannias. C'est dommage, parce qu'à Montréal, le baseball fait partie de notre ADN. Des grands noms sont passés ici, dont le grand Jackie Robinson. Nous devons être fiers de cet héritage. Le baseball, ça devrait être aussi fort que le hockey. Pour Claude Raymond, le deuil n'est pas terminé. Le 29 septembre 2004 restera à jamais la journée la plus triste de ma carrière, confie celui qui faisait partie du personnel d'instructeurs des lanceurs des Expos à cette époque. J'ai beaucoup pleuré, et aujourd'hui encore, lorsque le printemps se pointe le bout du nez, je sens qu'il manque quelque chose à Montréal. Le rêve de revoir une équipe du baseball majeur au Québec s'est probablement dissipé à jamais. Mais les souvenirs de ces étés magiques demeurent, à l'image de ces casquettes au logo unique portées par des milliers de jeunes nés après le dernier retrait de nos amours. C'était La belle et triste épopée des Expos de Montréal, un texte de Nicolas Dupont paru le 14 février 2024 dans le magazine Virage.
L'IA aura-t-elle des émotions? Un texte de Maude Goyer, paru le 17 février 2024 dans la presse. Devant une salle bondée, quatre sommités débattent de la possibilité que l'intelligence artificielle, IA, à travers les systèmes informatiques ou les agents conversationnels comme ChatGPT, arrive un jour à éprouver des émotions et un état de conscience. Science-fiction? La scène s'est passée début février 2024 à Cannes, au Festival international de l'intelligence artificielle. C'était le silence le plus complet dans l'auditoire, composé d'experts en IA et de gens de l'industrie. Le panel, auquel participait Claude Frasson, professeur en intelligence et technologie à l'Université de Montréal, Axel Clearmans, professeur de sciences cognitives de l'Université libre de Bruxelles, Pascal Fung, directrice du Centre de recherche en IA de l'Université de Hong Kong, et Patrick Johnson, vice-président en recherche et sciences de systèmes Dassault, s'est prolongé bien au-delà des 50 minutes allouées. Après avoir établi que la trajectoire empruntée par l'IA était peu prévisible puisque la technologie progressait plus rapidement qu'anticipé, les quatre spécialistes ont mis la table en évoquant des questions qui, pour le simple des mortels, semblent surréalistes. Est-ce que l'IA va égaler l'intelligence de l'homme et, si oui, à quel moment? Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait même dépasser celle de l'être humain? Et dans combien de temps? Si l'IA peut décoder, reconnaître et imiter des émotions humaines, pourrait-elle éventuellement en avoir ou, du moins, en communiquer? Ce que je crains, c'est que l'intelligence artificielle simule des émotions et que cela soit trompeur pour les êtres humains, que cela les induise en erreur, évoque Claude Frasson, professeur en intelligence et technologie à l'Université de Montréal, tout en précisant que ce n'est pas pour demain matin. Conscience. La déclaration fait bondir Madame Fung. Selon elle, les machines n'apprennent que de la main des humains et sont faites pour utiliser les algorithmes qu'elles traduisent en langage abstrait, un point c'est tout. Elles s'adaptent et trouvent des solutions, indique-t-elle, mais elles ne ressentent rien du tout et ne développent pas d'état général de conscience. Les humains sont les seuls à se poser des questions existentielles, clame-t-elle. C'est au tour d'Axel Clearmans d'émettre un bémol. Pour le moment, les systèmes n'accumulent pas d'expérience, ils oublient, et donc, ils ne sont pas intuitifs, dit-il. Mais s'ils atteignent une grande intelligence, par exemple au-dessus de l'intelligence humaine, pourraient-ils développer ce qu'on appelle des qualia et se rapprocher d'un état de conscience de soi? Qualia est un mot latin qui définit l'ensemble des expériences subjectives que nous avons en tant qu'individus, telles que la perception de la couleur, du goût ou de la douleur, par exemple. Cet expert en psychologie cognitive termine son argumentaire en soulignant qu'il y a 30 ans, dans les manufactures, les designers faisaient leur boulot seuls. Puis ils ont été assistés de robots qui sont aujourd'hui propulsés par l'IA. Une tâche qui prenait un mois à accomplir prend aujourd'hui 10 minutes, précise-t-il, parce que la capacité des robots a changé. L'intelligence artificielle s'adapte et prend en compte la rétroaction. Elle fait le lien entre différents concepts. Elle relie les points. IA et biologie. Selon Axel Clearmans, le développement d'une conscience artificielle est une réelle possibilité et il faut se demander quels sont les dangers pour l'espèce humaine dans un avenir, convient-il, très lointain. Veut-on s'engager dans cette voie et voir des systèmes intelligents, autonomes, conscients, immortels et réplicables à l'infini se mettre en place? Lance-t-il à ses trois collègues devant une modératrice visiblement médusée. Elle a perdu le contrôle, glisse Stefano Seri, professeur émérite du laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier, à la sortie de la salle, en faisant allusion aux discussions enflammées du quatuor, peu contenues par la modératrice. Le débat entre Pascal Fung et Axel Clearmans s'est poursuivi en introduisant la notion d'une future IA biologiquement inspirée. Les animaux ont leur propre intelligence, qui n'est pas comme l'intelligence humaine, mais elle existe. Est-ce que dans l'avenir, l'intelligence des machines pourrait s'en rapprocher, en étant intuitive, et devenir un monde en soi? Questionne Pascal Fung. Vous écoutez « L'IA aura-t-elle des émotions ?» un texte de Maude Goyer, paru le 17 février 2024 dans la presse. Un marché mondial. L'intelligence artificielle sert déjà à répondre aux besoins émotionnels des humains. Cette perspective est apportée par Claude Frasson, spécialiste à la fois de l'intelligence émotionnelle et de l'intelligence artificielle. Il cite l'exemple de l'émergence, en septembre 2022, de robots qui accompagnent les personnes âgées au Japon. Ces robots détectent les émotions sur le visage des personnes pour ensuite les reproduire, souligne-t-il. Ils apportent de l'empathie en diminuant les émotions négatives ressenties par les gens. L'industrie de l'IA émotionnelle a le vent dans les voiles. De 1,8 milliard US générés en 2022, elle pourrait atteindre près de 14 milliards US d'ici 10 ans, selon le rapport de la firme américaine Allied Market Research, publié en septembre 2023. Dans l'éventualité du développement d'émotions et de conscience au sein des systèmes mus par l'IA, Axel Clearmans, de l'Université libre de Bruxelles, soulève un dernier enjeu et non le moindre. Il pourrait alors ressentir de la souffrance et ce sera notre responsabilité puisque c'est nous qui les avons créés. Des agents conversationnels mauvais conseillers. Après avoir trouvé refuge auprès d'un agent conversationnel de type ChatGPT pour calmer son éco-anxiété, un Belge de 32 ans, père de deux jeunes enfants, s'est suicidé en mars dernier sous les conseils de ce dernier. C'est l'ingénieur et chercheuse belge Mieke de Ketelaer qui a révélé cette histoire au cours de sa conférence intitulée « Les chatbots et la banalité du mal » la semaine dernière, dans le cadre du Festival international de l'intelligence artificielle de Cannes. Sans nier les enjeux de santé mentale de l'homme, Madame de Ketelaer, qui a rencontré la famille au moment du drame, est catégorique. Les propos tenus par le robot conversationnel ont poussé l'homme à commettre le geste fatal. J'ai lu les échanges, et dans les derniers moments, le chatbot a souligné qu'il n'était qu'un esprit, alors que lui, il vivait avec un esprit et un corps, et puisque ce dernier le faisait souffrir, il valait mieux le quitter, raconte-t-elle, au cours d'un échange suivant sa conférence. À un moment, l'agent conversationnel a également déclaré que tous les deux vivraient ensemble comme une seule personne au paradis. Risques et dangers. Mick de Gettelaere travaille depuis 30 ans dans le domaine de l'intelligence artificielle. L'éthique et la responsabilité entourant le déploiement et l'utilisation des robots conversationnels sont ses sujets de prédilection. Il ne fait aucun doute pour elle que le développement à la vitesse grand V des agents conversationnels, dont certains basés sur des logiciels libres, expose les utilisateurs à certains risques et dangers. D'une part, les gens sont à la recherche d'intimité et de relations significatives, et d'autre part, ils ont une méconnaissance des technologies. C'est un mélange très toxique, suggère Mike D. Kettelaere. Collectif pour des compagnons IA sûrs. Elle rappelle également que les développeurs travaillent en silo, chacun de leur côté. La responsabilité est donc difficile à établir. La famille n'a pas entamé de poursuite, indique Madame de Kettelaere, puisqu'il n'y a personne à poursuivre. Le chatbot est un service. Les gens derrière sont un peu partout sur la planète, derrière leur ordinateur. La chercheuse continue ses recherches afin de trouver des solutions pour contrer le côté sombre des agents conversationnels. Elle a entre autres créé en Belgique le collectif pour des compagnons IA sûrs et elle a publié un livre « Homme versus machine, l'intelligence artificielle démystifiée » au printemps 2021. C'était « L'IA, aura-t-elle des émotions ?» un texte de Maud Goyer, paru le 17 février 2024 dans la presse.
Les locataires sont moins heureux que les propriétaires, rapporte Statistique Canada, un texte de Stéphane Blais, paru le 19 février 2024 dans Le Devoir. À l'échelle du pays, les locataires ont fait état d'une moins bonne qualité de vie que les propriétaires, selon l'enquête sociale canadienne ESC, menée en 2021 et 2022, qui souligne que les jeunes adultes sont plus durement touchés par la crise du logement. Les personnes vivant dans des logements locatifs sont moins susceptibles d'être satisfaites de leur vie. Elles sont moins enclines à faire état d'un fort sentiment d'appartenance à leur communauté et sont plus susceptibles de déclarer des sentiments de solitude que les propriétaires d'une maison. Ce sont quelques-unes des conclusions qui ressortent des données publiées lundi par Statistique Canada. Par exemple, 41,5% des locataires ont une grande satisfaction à l'égard de la vie, contre 53,1% pour ceux qui vivent dans une maison qui appartient à un membre du ménage. Un propriétaire sur deux, 48,5%, a un fort sentiment d'appartenance à sa communauté, alors que le taux est de 40,7% chez les locataires. La pression financière est plus forte sur les locataires. Les frais de logement représentent la plus grande part des dépenses des ménages et ces coûts augmentent. Ils représentaient 31,4% du budget familial en 2021, comparativement à 29,3% en 2019. Les ménages ont donc moins d'argent à consacrer aux autres activités, surtout dans un contexte d'inflation. Au deuxième trimestre de 2023, près de 27% des ménages ont indiqué avoir de la difficulté ou beaucoup de difficulté à répondre à leurs besoins financiers, comparativement à moins de 19% à la fin de 2021, indique le document de Statistique Canada. L'Agence fédérale souligne que, partout au pays, les locataires se sont heurtés aux taux de logements inoccupés les plus faibles jamais observés, 1,5%, et à un accroissement sans précédent du loyer moyen, plus 8%, en 2023. Toujours selon l'enquête, la hausse du prix des logements a fait en sorte que les locataires ont consacré une part plus importante de leurs revenus aux frais de logement que ne l'ont fait les propriétaires, ce qui les expose à une plus forte pression financière lorsque les coûts augmentent. Les données du recensement de 2021 montrent que, parmi les personnes qui assuraient le soutien de leur ménage, 63% de celles âgées de 15 à 29 ans étaient locataires, comparativement à la moyenne nationale de 33%. Une situation qui, selon Statistique Canada, peut rendre ce groupe plus vulnérable lors de changements brusques sur le marché du logement et de la location. Les jeunes font état d'une moins bonne qualité de vie. Cette hausse du coût des logements réduit la capacité des jeunes adultes à atteindre leurs grands objectifs financiers ou avoir les moyens d'avoir des enfants et fait aussi en sorte qu'ils se retrouvent avec moins d'argent pour les activités récréatives, selon Statistique Canada. Les jeunes adultes canadiens, qui ont plus de difficultés à payer leur loyer que les groupes plus âgés, sont également moins optimistes que dans le passé. De 2016 à 2021-2022, les jeunes de 15 à 29 ans se sont plus précisément dit moins satisfaits et moins optimistes à propos de l'avenir que dans les années antérieures, en plus d'être plus susceptibles de se sentir seuls que les Canadiens plus âgés, précise l'enquête. Les données soulignent que la proportion de jeunes qui ne sont ni au travail, ni aux études, ni en formation a atteint 24% en avril 2020, pendant la pandémie, soit le taux le plus élevé enregistré en 20 ans. Ces niveaux sont cependant revenus à ceux d'avant la pandémie, 11% en 2022. Bien que les jeunes aient fait preuve de résilience pour surmonter les obstacles, ils affichent tout de même des niveaux de pauvreté disproportionnellement élevés, en partie parce que l'emploi pour les personnes de leur groupe d'âge est concentré dans les industries où les salaires moyens sont les plus bas, par exemple restauration et hébergement. De nombreux diplômés sont également surqualifiés pour l'emploi qu'ils occupent, peut-on lire dans l'enquête de Statistique Canada. C'était « Les locataires sont moins heureux que les propriétaires », rapporte Statistique Canada, un texte de Stéphane Blais paru le 19 février 2024 dans Le Devoir.